On a attendu, attendu toute la journée, il n'est pas revenu, le lendemain non plus. Que faisons-nous avec une situation comme celle-là? On a fait des recherches via Interpol, on a contacté tous des amis qui auraient pu le revoir, une cousine qui habitait Scarbeck, puisque la maman était à Scarbeck à ce moment-là. Elle m'a dit, je crois l'avoir vu au parc Josaphat. On fait des recherches un petit peu partout. Et puis non, chaque fois ça a échoué. Donc ça a été des semaines et des mois épouvantables. On n'a jamais revu Dimitri.
Dimitri ne rentre pas. Est-ce que tu peux me resituer un petit peu l'ambiance à la maison ce soir-là?
Ah, ce soir-là, maman était paniquée, comme c'était un samedi ou un dimanche. Téléphoner au ministère de la Justice, téléphoner à Blondel était vraiment impossible. On l'a fait dès le lendemain matin. Mais le soir, tout ce qu'on a pu faire, c'est de l'attendre et d'attendre.
Nous avons reçu par après un document très administratif en disant que la garde de Dimitri Billet s'arrêtait, étant donné que la maman avait récupéré l'enfant. C'était un document très administratif.
Il n'y a eu aucun respect. C'est une lettre officielle, modèle 4224 bis. On envoie ça comme ça. C'est une vie, c'est 4 ans ou 4 ans d'une vie qu'on balaye d'un revers de main, alors que on nous a retiré un enfant.
Dimitri, deux fois disparu. Une enquête documentaire de Mathieu Cornelis. Épisode 2. Avis de recherche. Il y a 45 ans, en 1978, mes parents ont accueilli Dimitri. À l'époque, confier des enfants à des familles n'était pas une évidence. Je vais voir Dominique Olivier. Elle travaille dans le secteur du placement familial depuis 1981. C'est justement l'année qui nous intéresse.
En 1981, accueillir un enfant, c'était une solution que les juges de la jeunesse avaient quand ils devaient écarter un enfant de sa famille pour des raisons diverses. Et c'était une solution qui n'était quand même pas tellement préconisée par les juges de la jeunesse. On préconisait d'abord le placement en institution. Voilà. Il y avait deux courants qui existent encore ailleurs actuellement, qui traversent toute l'aide à la jeunesse toujours, qui est celui de privilégier le lien biologique, le lien relationnel avec les parents, et celui de privilégier l'enfant et la chance qu'on lui donne peut-être d'accéder à autre chose quand on le met dans un autre milieu. Ces deux orientations sont toujours là, parcourent toujours l'aide à la jeunesse. Actuellement, on privilégie vraiment le lien parent-enfant. À l'époque, les deux courants existaient. Il arrivait que certains enfants soient, ou fratries, soient envoyés dans le fond de la Belgique, alors que le dossier était à Bruxelles, en disant qu'il fallait une bonne séparation parent-enfant. Et dans d'autres cas, on faisait l'inverse.
Est-ce qu'on peut dresser un petit peu le profil ou les profils des enfants qui, à un moment dans leur vie, sont accueillis en famille?
En 1981, puisque c'est la période qui vous intéresse, on s'adressait au placement familial vraiment quand on n'avait plus d'espoir du côté des parents. Il y avait déjà un peu de parents toxicomanes, mais ça s'est fortement amplifié par la suite. Parents toxicomanes, mais parents aussi disparus, par exemple, ou parents dans la rue, des enfants qu'on oubliait à l'hôpital, à la pouponnière, où on venait peu les voir, des enfants qui étaient peu stimulés, où on sentait que le lien n'était pas important. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré dans ma carrière des enfants où on s'est dit on n'aurait pas dû les placer en famille d'accueil.
Allô.
Bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger ici, c'est Mathieu Cornelis. Vous auriez trois petites minutes ou c'est pas le bon moment?
Oui, oui, oui. Non, mais allez-y.
Vous avez compris, ma démarche, elle est double en fait. Donc c'est une histoire de famille, cette disparition d'un enfant qui avait été placé au home en pain à l'époque et qui a été accueilli chez mes parents pendant 4 ans. C'est aussi un travail de documentaire journalistique pour la radio. Voilà, les auditeurs vont me suivre dans mes recherches. Alors, le Haut-Mampin, évidemment, c'est le lieu de départ de cette histoire, puisque l'objectif, c'est de retrouver la trace de Dimitri. 40 ans plus tard, l'enquête doit commencer au Haut-Mampin, et je trouve que ce serait intéressant qu'on puisse se voir. Et puisque je suis dans le quartier de lundi, voilà, je me demandais si par chance vous n'auriez pas 3 quarts d'heure à m'accorder en début d'après-midi ou vers 15 h.
Il y a plus ou moins 30 ans, Lesbelle a quitté les bâtiments qui seraient Square du Sacré-Cœur à Auderghem et qui s'appelait à l'époque Haut-Mampin.
Luc Sommers.
Mais donc, voilà, il faut que je sois prudent de parler du projet du Haut-Mampin parce que voilà, ce n'était pas moi qui devais le gérer à l'époque, mais disons que par rapport à beaucoup d'associations en communauté française, ben, le Haut-Mampin reprend bien l'esprit qu'il y avait à une époque où beaucoup d'associations viennent de sœurs, de structures religieuses qui ont pris durant des années à bras le corps le fait de venir en aide à des enfants en difficulté. Et donc le Haut-Mampin, comme il y a eu le manoir d'Anjou, comme il y a eu notre abri, toutes des anciennes structures qui datent d'une époque. Et à un moment donné, ces ASBL se sont fait, ont reçu un agrément, ont reçu des subsides, ont engagé du personnel professionnel, ont élaboré des projets pédagogiques. Et puis petit à petit, les sœurs ont fait marche arrière. Et donc de cette aide plus caritative, s'est mis dessus plutôt une aide plus professionnelle, quoi, voilà.
Et vous, votre place là-dedans, elle est où? Dans cette transition.
Mais quand moi je suis arrivé, le Haut-Mampin était en passe de devoir fermer ses portes pour de manquements divers. Et les sœurs, elles, avaient un certain âge, n'étaient plus vraiment sous le terrain. Et elles désiraient récupérer l'argent de leur bâtiment. Elles ont revendu le bâtiment et demandé au home et à la pouponnière de devoir quitter les lieux. Donc moi, je suis arrivé dans ces bâtiments, j'ai découvert ces bâtiments à moitié vides, et les jeunes qui y étaient avaient vécu des choses difficiles, et entre autres le fait qu'on leur expliquait que tout ça allait fermer. Et donc, entre autres, dans le lieu où il y avait les garçons, ils avaient saccagé tout l'étage, cassé les carreaux, donc qui faisait qu'on avait plus l'impression d'avoir vécu après un séisme ou un temps de guerre, presque, tellement ça rajoutait quelque chose de sinistre dans ces lieux, qu'il était sans doute moins à une époque, quoi. Mais donc, effectivement, il faut imaginer des couloirs qui font 50 mètres de long, avec des plafonds qui font 4 mètres de haut, et qui donnent accès à des locaux avec des grandes portes immenses. Donc, voilà, c'est une époque, quoi.
Jacques Bouquet, ancien juge de la jeunesse.
Vous avez connu ce home? Vous sauriez me le décrire un petit peu?
Le Haut-Mampin, c'était une énorme institution, effectivement, avec des religieuses, comme bien souvent les institutions d'accueil des enfants à l'époque. Ça fonctionnait, oui, ça fonctionnait, mais avec le côté autoritaire, grand groupe d'enfants, etc., qui était tout à fait habituel à l'époque, mais sur lequel on est revenu maintenant, évidemment.
Mes parents n'ont plus jamais revu Dimitri, un enfant qui a vécu avec eux presque 4 ans. Alors, les services du juge Blondel ont fait des recherches, sans succès, et puis un courrier est parvenu à mes parents. Et j'aimerais vous demander, si vous voulez bien, de le lire à haute voix.
Donc, c'est une lettre du juge Blondel adressée à M. et Mme Cornélis, parents d'accueil. Suite aux renseignements que vous m'avez transmis, j'ai fait revoir la situation de Dimitri. Celle-ci s'avère très satisfaisante. Ma déléguée, Madame Torrekens, a étudié la situation de manière approfondie. Elle croit que devant l'opposition formelle de la mère quant à la reprise des contacts avec votre famille, imposer ceux-ci serait créer une source de conflit dont Dimitri aurait à souffrir. Nous continuerons à surveiller l'évolution de cet enfant, mais je me rallie à l'avis de Madame Torrekens. Les choses étant ce qu'elles sont, il faut tout miser sur une réussite au sein de la famille naturelle. C'est une priorité de miser sur le milieu naturel, qui est quand même le milieu d'origine et de vie normale d'un enfant. Mais évidemment, c'est ce qui fait aussi le caractère extrêmement exigeant et dur de l'accueil familial. Des parents d'accueil doivent toujours s'attendre à ce que l'enfant retourne un jour dans son milieu d'origine. C'est toujours très délicat, c'est pas une adoption, un placement en famille d'accueil, c'est un passage pour un enfant dans un milieu qui provisoirement va le protéger des carences de son milieu familial d'origine, mais qui n'est pas perpétuel et donc surtout qui est révisable régulièrement.
Vous pourriez peut-être m'aider à trouver des informations. Je cherche par exemple le contact de Madame Moreau, qui était directrice du Haut-Mampin à l'époque.
Oui, donc ça, on peut peut-être regarder dans les dossiers si on peut trouver l'adresse.
Puis, peut-être qu'il existe des archives aussi. Est-ce qu'on peut accéder aux archives et si oui, sous quelles conditions?
Il y a certaines archives qui datent du Haut-Mampin, mais alors là, clairement, ces éléments de dossier appartiennent aux jeunes et aux familles concernées, et on ne peut absolument pas, nous de notre côté, les partager avec un élément tiers. Ça fait partie du secret professionnel, quoi.
Mmh. Je peux aller frapper à la porte de qui, selon vous?
Vous pouvez toujours frapper aux portes, hein, donc j'imagine. Mais ça vaut peut-être la peine d'aller au tribunal de la jeunesse pour voir un petit peu quelles archives qu'ils en ont, peut-être de voir quels sont les derniers contacts qu'ils ont eu avec ce jeune et cette famille.
Merci, monsieur Somers. S'il vous plaît.
Je cherche les archives du procureur du roi.
C'est mal parti. Déjà rien qu'archives. Vous traversez, là, il y a le tram, vous passez, puis c'est sur la droite. Le parquet du procureur du roi et tout ce qui est famille.
Merci pour votre aide.
Avec plaisir.
Je crois que j'y suis. Palais de justice, parquet du procureur du roi, tribunal de première instance, tribunal de la jeunesse.
Bonjour.
J'aimerais, s'il vous plaît, vous demander une info. Je souhaite consulter un dossier d'archives du tribunal de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je fais, quelles seraient les démarches?
Vous aviez prévenu pour enregistrer?
Je vais le faire.
C'est un peu tard. Il faut le faire avant. Monsieur, on peut vite passer parce qu'on a les réunions avec plusieurs magistrats, section jeunesse.
Je demande au guichetier si je peux l'enregistrer. La réponse est non. Je coupe le micro. Alors seulement, il m'explique comment obtenir la réouverture d'un dossier. Première étape, écrire un courriel au parquet jeunesse. Ensuite seulement, le greffe pourrait chercher le dossier dans les archives du royaume.
Le juge Blondel est décédé aujourd'hui, il ne répondra pas à mes questions.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ?
Il était juge de la jeunesse, il dirigeait d'ailleurs la section jeunesse à l'époque, et je pense qu'il a vraiment, oui, il a bien fait son boulot. Oui. Alors ici, dans la situation que vous me décrivez et la lettre du juge Blondel, je comprends un peu la réaction du juge, même si je trouve que il y a quelque chose qui me paraît un peu choquant, c'est que il semble avaliser l'enlèvement par la maman d'origine d'un enfant de façon très sauvage, je trouve. ça ne se fait pas d'aller reprendre un enfant dans son milieu d'accueil et puis en visite officielle et puis de ne pas le ramener et de disparaître dans la nature. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça, évidemment. Hein, donc, on n'a pas...
Est-ce que c'est un enlèvement ?
Ben oui, évidemment, c'est tout à fait contraire à la décision judiciaire. Et donc, le parent qui récupère l'enfant, qui va l'enlever, par exemple, ben oui, il va être poursuivi par le procureur du roi devant le tribunal correctionnel.
Vos parents signalent à la police la disparition de l'enfant, finalement. Et puis qu'il reste sans réponse, sans même être entendu par le juge ou par la déléguée, sans même être convoqué au tribunal pour expliquer, sans même être pris en compte, et qu'il reçoive plusieurs mois après une lettre disant « tout va bien », je trouve ça inhumain, inacceptable. Voilà. Normalement, dans les pratiques que j'ai connues, en tant que service d'encadrement, un enfant ne repartait pas chez ses parents du jour au lendemain sans une rencontre avec la famille d'accueil, sans une prise en compte des avis des uns et des autres et sans un minimum de préparation. Ça, moi, je ne l'ai jamais rencontré d'un juge qui prenait cette décision de façon brutale, finalement. Normalement, il y a toujours une préparation. Maintenant, pour l'enfant, quitter une famille d'accueil, c'est toujours éprouvant. C'est quand même quitter un lieu de vie, quitter ses repères. Surtout s'il n'y a pas de préparation et si la rupture est brutale. Mais des dégâts, il y a dû en avoir. Ça, c'est inévitable.
Vous disiez, Dominique Olivier, que moi, j'aurais peut-être été plus marqué que blessé par la disparition de Dimitri.
Oui, je pense que vous avez peut-être été, je suis prudente, plus marquée que blessée, parce que vous n'avez pas manqué d'affection, vous n'avez pas manqué de cadre sécurisant, vos besoins ont été rencontrés avec une famille aimante et sécurisante. Par contre, vous êtes arrivé après, quelque part dans l'histoire familiale, il y a ce premier... fils d'accueil, quelque part, cette espèce de grand frère qui potentiellement devait être là, puisque vous êtes né quelques mois après, et puis qui disparaît du jour au lendemain, en laissant de la souffrance chez vos parents, surtout chez votre maman. Et quand les liens sont là, on ne fait pas tellement de différence entre le lien de sang et le lien affectif. C'est pour ça que c'est un peu comme si... un premier enfant était décédé et vous arrivez après, quoi. Donc je pense que c'est ça qui vous a marqué, cette histoire familiale qui est aussi la vôtre.
Le problème, c'est qu'on lui a dit que vous ne vouliez plus de lui non plus. Donc lui, on voit qu'il y a une colère à un moment donné, ou une tristesse, on l'arrache quelque part à un endroit aimant pour se retrouver dans un endroit, entre guillemets, de misère. Et ils sont passés par la France, on voit, aussi. Depuis le début, moi je voyais, maintenant je me trompe peut-être, mais je voyais l'Espagne ou l'Italie, tu vois ce que je veux dire. Il était battu aussi. On voit que c'était un gosse qui était puni. Je te promets qu'il a un sale parcours de vie. Mais je pense qu'il a été replacé, en fait, par la suite.
Dimitri, deux fois disparu. Réalisation et prise de son, Mathieu Cornelis. Montage, Irvic d'Olivier. Mixage, Roxane Brunet. Musique, Jean-François Durdu, Sébastien Schmitz. une production Otuscops soutenue par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par l'atelier de création sonore radiophonique.